Sur Chanson 1,2. Nous démarrons cette émission à Goma, au Nord Kivu, pour parler une fois de plus de la situation humanitaire. Vous savez que la nuit de ce jeudi a été relativement paisible après les agitations des précédentes suite au retrait des militaires de la ligne de front de Kibumba le mercredi dernier et la panique causée par les éléments FRDC qualifiés par les autorités militaires de déserteurs. Le tableau humanitaire dû à ce débâcle est qualifié de dramatique par la société civile. On tient également que plusieurs scènes de pillages et tueries ont été enregistrées par la police et des dizaines de milliers de civils ont dû fuir dans toutes les directions selon les humanitaires. Les uns se sont dirigés vers le sud Kivu, sur l'axe Minova, ou soit par voie Lacus, et les autres vers les pays voisins. Alors avec Sylvestre Kilolo, nous allons voir comment aujourd'hui, vendredi, la situation humanitaire a évolué au nord Kivu. Sylvestre, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à Jody Kachama, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors quel est le tableau aujourd'hui de la situation humanitaire au nord Kivu?
Nicole, ce matin, la situation est calme et les activités semblent reprendre progressivement. Selon la police, l'inspecteur de la police à l'intérim, qui vient d'effectuer une ronde matinale de la ville de Goma, les transports en commun viennent de débuter. Quelques commerces tentent de reprendre après presque 5 jours de fermeture. Le tableau humanitaire est effectivement catastrophique, tel que vous l'avez dit, ici dans la ville de Goma. Cela suite aux dernières agitations qui ont été occasionnées par le retrait temporaire des FARDC de la ligne de front à Kibumba, c'était le mercredi dernier. Et la nuit de ce jeudi à vendredi a plus ou moins été relativement calme, tel que l'a affirmé la police ici à Goma. Cette dernière dit avoir ici, cette nuit, a arrêté 10 militaires FARDC qui tentaient et cambriolés sur différents lieux, notamment dans les installations économiques en plein centre-ville, c'est autour d'une place qu'on appelle le Cinque des Troncs.
Oui, on rapporte qu'il y a eu beaucoup de cas de mort. Hein. C'est votre, vous avez des précisions à ce sujet?
Oui, le bilan qui a été enregistré par la police est tel que la nuit de mercredi à jeudi, 12 personnes ont été tuées par des militaires en débâcle et d'autres bandits armés qui ont assiégé différentes résidences des victimes. Des tueries, Nicole, qui ont eu lieu du centre-ville et du sud-ouest de la ville, à Katindo. À Katindo, effectivement, où la société civile de Goma a rapporté que toute une famille a été décimée chez elle. Et au niveau des Yindi, à l'endroit appelé Entrée Président, c'est lui qui mène vers le gouvernorat des provinces. Un corps a été retrouvé sur l'artère principale hier. Hein. Un bilan qui est présenté par la police comme étant jusque-là provisoire, Nicole, au stade actuel.
Oui, nous savons qu'il y a eu des cas de pillage. Est-ce que cette nuit encore, on a parlé des pillages à Goma?
Plusieurs cas de pillage ont été signalés également, hein, ça et là. Des boutiques et des magasins ont été dévalisés depuis mercredi. Ensuite, les pillards armés se sont attaqués aux gens à domicile. Ici, c'est surtout des bijoux, des téléphones portables, ainsi que de l'argent qui ont été extorqués. Tous ces actes de pillage qui se sont déroulés la nuit de mercredi à jeudi, Nicole, ont enfoncé davantage les gomatraqués dans une pauvreté. Mais depuis mercredi, effectivement, la police dit que plusieurs personnes viennent auprès d'elle pour dénoncer des lieux où les voleurs ont caché des biens. Un tas de matelas, par exemple, a été retrouvé par la police qui attend les remettre aux propriétaires qui vont se présenter probablement dans les jours à venir. Le colonel Ngoy, qui est inspecteur adjoint de la police, croit qu'il faut que la police mène de plus en plus d'investigations depuis ce mercredi sur ce genre de cas. Et avec le retour à la normalisation des activités telles qu'il s'annonce ce matin, la police dit attendre plus de détails auprès des victimes des pillages ou d'autres exactions qui ont été perpétrées au cours de ces deux derniers jours, Nicole.
En accusant justement David Katumbi, hein, qui est opérateur économique à Goma, on va écouter ce qu'il nous dit à ce sujet et puis après on revient à vous, hein, s'il va être utile.
D'accord.
Je suis opérateur économique au niveau de Goma, même membre de la FEC. Maintenant, je viens de la ville. Je suis au niveau de Miseki. Il y a une reprise quand même des activités. Je vois les taxis, le taxibus, même le moto qui circule, les petites boutiques, les petites alimentations, qui, et même les stations qui commencent à ouvrir les portes. Hier, la situation n'a pas tellement évolué positivement, puisqu'il y avait quand même toujours la panique, puisque dans la ville, j'ai essayé, mais puis traverser, comme je viens de le faire maintenant, puisqu'il y avait une présence militaire, hein, des hommes qui ont quitté Kibumba vers la ville, et qui sillonnaient avec une arme à la main, qui était carrément incontrôlée, alors ils ont paniqué carrément, et ils n'ont pas pu ouvrir. Jusqu'à ce niveau, l'élément central pour reprendre une vie économique, c'est d'abord la sécurité. Et quand nous n'avons pas vraiment la maîtrise de ce paramètre, il est difficile pour moi d'évaluer et de conclure que la reprise économique peut être envisagée immédiatement. Mais si on a la paix, et si réellement tout le monde veut avoir construit la paix, la reprise économique ne peut pas tarder ici au niveau de la province du Nord Kivu. Dans les 2 mois, 3 mois, tout peut démarrer, et tout le monde peut même être surpris.
Oui, alors, vous avez suivi David Katumbi en tant qu'opérateur économique de Goma, qui dit que pour reprendre une vie économique normale à Goma, il faudrait d'abord qu'il y ait la sécurité. Alors, est-ce que ce matin, hein, certains opérateurs économiques ont pu reprendre leurs activités, Sylvestre Kilolo?
Tout à fait, ce que M. David Katumbi vous l'a confirmé, nous avons eu la même confirmation auprès de la police, qui venait d'effectuer un tour dans la ville. Il constatait, le colonel Ngoy, qui est inspecteur à Bitterine, il constatait qu'il y avait reprise depuis 6 heures du matin des activités économiques par les transports, notamment en commun, des bus qui commençaient à circuler. Mmh. Ça n'a pas été le cas il y a 2-3 jours, Nicole.
Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de déplacement des populations? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réellement quitté le nord Kivu, la ville de Goma, pour le sud Kivu ou d'autres pays environnants?
Tout à fait, Nicole, puisque depuis mardi, nous avons vu beaucoup de gens fuir dans diverses directions. Et c'est plus des femmes, des enfants, des petits, des tout petits, hein, même des vieillards, des vieux, qui transportaient sur leur tête des petits décès personnels. Et donc, ils fuyaient plus vers la périphérie sur l'axe Sake-Minova en direction de Bukavu, et au sud Kivu. Et la majorité, c'était à pied, Nicole. Plusieurs autres qui ont des connaissances à Gisenyi, au Rwanda, ont traversé la frontière. Et c'est en dehors, vous le savez, Nicole, de ces nombreux déplacés internes qui se chiffrent par milliers. Vous le savez aussi, Goma, la ville de Goma compte environ 600 000 habitants. Et une bonne partie a fui la ville, Nicole, depuis ce mardi-là. Donc, de nouveaux déplacements de la population des camps de Kibumba à Goma, de Goma à Bukavu, en passant par Minova, mais aussi à Kanyabayonga, en passant par Masisi. Voilà des mouvements qui ont été observés à Goma et sa périphérie cette semaine, Nicole.
Mm.
À Minova, justement, c'est au sud Kivu, les plusieurs familles qui ont servi des familles d'accueil aux déplacés de Goma n'ont pas été épargnés par des pillages. Sur place, le président de la société civile dénonce des pillages perpétrés par les militaires FRDC qui se sont retranchés jusque dans cette partie du sud Kivu qui est à la frontière avec le nord. Voilà ce qu'on peut en parler, Nicole Gakar.
Merci beaucoup, Sylvestre Kilolo. Nous allons avoir d'autres précisions avec Olivier Martin en tant que chef adjoint de la délégation du CICR en RDC. Nous aurons également cet opérateur économique qui va revenir, David Katumbi, opérateur économique de Goma, afin de nous apporter un peu plus de lumière sur cette question. On va s'arrêter là. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le pays qu'ils ont la possibilité d'intervenir au 081 070 20 50 à travers des SMS. Ils peuvent aussi témoigner directement au 081 890 63 94. Quant à ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez nous écrire à l'adresse email action@radiocapi.net. Sylvestre Kilolo, on vous retrouve prochainement pour d'autres détails à ce sujet. Merci.
Merci et bon travail.
Vous souhaitez faire connaître vos activités, annoncer vos communiqués, vos événements, Radio Okapi se met à votre service et vous donne de la voix dans ses programmes tous les jours. Vous agissez, faites-le savoir en nous écrivant à programme@radiookapi.net. Radio Okapi, votre radio. Oui, retenez que dans un instant, nous irons à Butembo pour parler aussi de la situation humanitaire. Vous savez qu'il y a pas mal de déplacés qui ont fui les affrontements dans le territoire de Rutshuru et continuent d'affluer dans le secteur de Lubero-Butembo. On parle de 300 ménages de déplacés qui ont été enregistrés ces deux derniers jours par la mission d'aide aux déplacés et la Croix-Rouge, ville de Butembo. On retrouve en majorité des femmes, des enfants et des vieux. Retenons aussi qu'à Butembo, deux sites d'accueil sont déjà mis à leur disposition par les autorités municipales. On aura certainement tout à l'heure des détails avec Étienne Mundo que nous allons retrouver dans un instant. Mais d'abord, le point avec Olivier Martin en tant que chef adjoint de la délégation du CICR en RDC. Olivier Martin, bonjour.
Bonjour Nicole.
Alors avec vous, on va avoir quelques éclaircissements sur la situation humanitaire. On parle actuellement d'une situation humanitaire qui est dramatique, catastrophique pour le Nord Kivu. Est-ce que c'est vrai?
Regardez, oui, je veux dire, cette crise qui frappe le Nord Kivu n'est malheureusement pas la première. Donc elle vient encore vulnérabiliser les populations qui ont connu de déplacements multiples depuis ces dernières années. Donc certaines étaient d'ailleurs dans des camps déplacés et ont dû une nouvelle fois se déplacer. C'est vrai que ça fragilise le tissu social et ça rend ces populations, ça les met dans une situation extrêmement précaire.
Oui, vous parlez des camps de déplacés. Nous savons qu'il y avait notamment le camp de Kibumba. Aujourd'hui, tous ces déplacés du camp de Kibumba ont quitté ce camp pour d'autres refuges.
Alors, le déplacement, il s'est effectué, je dirais, sur trois axes pour la région du Rutshuru. Donc, une vaste majorité s'est déplacée vers le sud, direction Kibati, se sont réfugiés ensuite dans des lieux publics, soit à Goma, soit dans les environs. Et certains ont poursuivi leur route vers Sake, et comme certains observateurs l'indiquent, probablement vers Kiroche, direction le sud Kivu. Vous avez aussi un phénomène des gens qui se sont déplacés vers l'est, donc la région de Nyamilima, l'axe, je dirais, Rutshuru-Nyamilima, d'après les informations qu'on a pu avoir avec des autorités sur place, accueille aussi passablement de déplacés. Et enfin, il y a le déplacement vers le nord, direction Kaina et Kanyabayonga.
On nous a dit que certains aussi se sont réfugiés au Rwanda, d'autres au sud Kivu, d'autres encore en Tanzanie.
Oui, alors pour les populations qui seraient déplacées à l'extérieur, j'ai pas de chiffres, ça je pense que le Haut Commissariat réfugié devrait être le mieux placé. Et maintenant, je crois que pour l'instant, le nombre de déplacés est quand même nettement supérieur à l'intérieur de la RDC. Beaucoup de ces déplacements, c'est des déplacements aussi préventifs, ils fuient les zones de combat, ils fuient aussi les risques encourus à cause de porteurs d'armes qui seraient en train d'agir d'une manière peut-être quelque peu désordonnée parfois. Donc, je dirais que c'est surtout à l'intérieur de la RDC où la crise est la plus dramatique.
Vous avez une idée sur le nombre de déplacés qu'il pourrait y avoir en ce moment au Nord Kivu?
Alors, je pense qu'il est extrêmement difficile de donner des chiffres à ce stade, mais je pense que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû être affectées par cette récente reprise des hostilités. Mais il ne faut pas non plus négliger les populations résidentes qui, elles, souvent font preuve d'une remarquable solidarité à l'égard des déplacés, en les accueillant chez eux, en partageant leurs maigres ressources. Donc je pense qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les déplacés eux-mêmes, qui certes présentent une vulnérabilité importante, mais il faut aussi prendre en considération dans les réponses qu'on met en place la population résidente qui elle aussi est victime et subit de plein fouet l'impact de cette crise.
Oui, mais nous avons suivi l'évolution de la situation humanitaire. On a appris que plusieurs agences humanitaires n'arrivent plus à travailler pour raisons de sécurité. Est-ce le cas du CICR?
Alors, en effet, je dirais que ça a été le cas, en tout cas, durant la nuit mercredi, jeudi, la situation a été extrêmement volatile et la sécurité extrêmement précaire en ville de Goma. Hier, on a pu reprendre des activités, notamment en mettant des équipes, une équipe chirurgicale à travailler dans deux hôpitaux de Goma. Aujourd'hui, cette présence est en train d'un peu augmenter. On a pu faire d'abord le personnel, nos employés nationaux congolais ont enfin pu sortir de chez eux et rejoindre le bureau. Donc on a une équipe dans la région de Kibati. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de déplacés qui se sont réfugiés dans des lieux publics, notamment dans des écoles ou des bâtiments publics.
Oui.
Donc on est en train de réinstaller, approvisionner en eau dans ces bâtiments publics dans la région de Kibati pour environ 10 000 personnes, donc fournir de l'eau à 10 000 personnes. On essaye de ramener aussi du matériel chirurgical et médical depuis Bukavu, ça devrait arriver ce matin à Goma. On a prépositionné, on a dévoilé la possibilité de rentrer par l'Ouganda. On a déjà prépositionné de la nourriture à la frontière dans la région de Ishasha Nyamilima. Et on essaye maintenant de descendre depuis Beni Butembo pour avoir une présence permanente dans le sud du Béro. Et là-bas, la situation est encore un peu volatile au niveau sécurité.
Oui, parce que nous irons également à Butembo dans un instant pour avoir d'autres détails avec notre confrère Étienne Moindo, qu'on va retrouver d'ici là. Restez avec nous, Olivier et Martin,
oui.
Puisque nous aurons d'autres détails à relever avec vous à ce sujet. On va prendre cette fois-ci David Katumbi en tant qu'opérateur économique de Goma. David Katumbi, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Oui, nous avons suivi tout à l'heure notre confrère Sylvestre qui nous a dit que les activités reprennent petit à petit, les activités économiques reprennent petit à petit à Goma. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu reprendre les activités économiques à Goma?
Oui, je peux confirmer timidement la reprise des activités puisque maintenant là, je viens de la grande barrière, donc la frontière qui nous sépare avec le Rwanda. Et maintenant là, je me trouve du côté de l'hôtel Caribou. Donc c'est vraiment une coupe transversale de la ville de Goma. Je constate qu'il y a une reprise timide, puisqu'il y a déjà quelques stations à essence qui sont opérationnelles. Il y a des boutiques et déjà 2-3 alimentations. Donc ça prouve que la reprise est quand même est effective.
Est-ce que vous avez subi des pertes énormes en tant qu'opérateur économique évoluant en Orkivu?
Je dirais, comme j'ai même dit l'autre fois, que ce serait vraiment prématuré, puisque il y a eu des visites armées à la maison. Et c'est sûr qu'après une réunion avec mes opérateurs économiques, que je peux vous donner un bilan, pas nécessairement définitif, mais un bilan provisoire de la perte, puisque il y a eu des visites à domicile, des opérateurs économiques qui ont été victimes, et on ne sera pas évalué immédiatement puisque tant qu'on n'a pas encore un espace pour pouvoir nous réunir et faire une bonne évaluation. Mais c'est sûr qu'il y a eu quand même des pertes. Il y a eu des pertes au niveau des opérateurs économiques.
C'est vrai que c'est un peu tôt de faire une évaluation, mais selon vous, est-ce que ce conflit, les incidents qu'il y a eu dernièrement à Goma, pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur la situation économique à Goma?
Certes, puisque je dirais avec notre position maintenant, c'est vrai que nous devons avoir des conséquences vraiment dramatiques. Nous ne savons plus nous approvisionner à partir du Kenya puisque nos deux frontières sont complètement coupées. Nous ne parvenons pas à relier Ishasha, à relier Bunagana. Donc il ne nous reste que la seule frontière, c'est la frontière rwandaise. Donc ici où nous sommes, c'est comme un bassin. Nous sommes vraiment encerclés. Donc, à part l'unique sortie, qui est le Rwanda, c'est maintenant notre bouée de sauvetage pour cette reprise timide des activités économiques.
L'unique sortie maintenant reste seulement le Rwanda, alors qu'il y a d'autres pays frontaliers.
Oui, d'autres pays frontaliers, c'est-à-dire par rapport à Goma. Donc, pour atteindre l'Ouganda, il faut passer par Bunagana. en passant par Bouragana, donc vous devez traverser la zone qui est occupée par le belligérant.
Mmh.
Donc voilà un peu la difficulté. Nous sommes coupés aussi par Boutembo, à moins qu'on fasse un pont aérien, à ce moment-là on peut atterrir à Boutembo. Donc ça devient un peu difficile, on n'a pas de gros porteurs, donc c'est un peu difficile puisque l'aéroport, il y a un aérodrome à Boutembo, donc on ne peut pas faire un pont aérien avec Boutembo. Donc difficilement ça va être un peu compliqué. Donc nous devons tous nous impliquer pour trouver une solution durable à cette crise.
Oui, merci beaucoup David Katumbi de nous avoir donné ces détails en tant qu'opérateur économique hein, de Goma. On aura certainement l'occasion de revenir sur vous hein, d'ici là, dans les prochains jours, mais pour aujourd'hui on s'arrête là. Merci d'avoir été les nôtres et bon courage hein.
Merci beaucoup maman, merci beaucoup, c'est gentil de votre part.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Nous avons plusieurs réactions qui nous arrivent au studio au 081 070 20 50 à travers des SMS, mais aussi des réactions directes, autrement dit des gens qui interviennent directement au 081 890 63 94, ils interviennent au téléphone. On va lire quelques réactions de nos auditeurs, notamment la réaction depuis Goma de Luneyo Jonathan qui nous dit « Les Kivusiens n'ont pas besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin de la paix. Les humanitaires doivent s'impliquer aussi dans la recherche de la paix, car avec la paix, tout est possible. Olivier Martin, en tant que chef adjoint de la délégation du CICR en RDC, est-ce que vous partagez l'avis de cet auditeur? Allô, Olivier Martin, vous êtes toujours avec nous?
Excusez-moi.
Oui. Vous avez suivi la préoccupation de cet auditeur. On peut reprendre, hein, si vous le souhaitez.
Oui, merci si vous reprenez parce que j'ai été coupé. Donc, si vous pouvez reprendre la question.
Okay. Alors, il y a cet auditeur qui vous dit, hein, qui dit ceci, il dit les Kivusiens n'ont pas besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin de la paix. Les humanitaires doivent s'impliquer aussi dans la recherche de la paix, car avec la paix, tout est possible. Vous partagez sa préoccupation?
Non, c'est certainement que la paix est la clé du futur des Kivus. Je pense que les Kivus ont déjà assez souffert ces dernières années de crises à répétition, donc je ne peux que abonder en ce sens. Maintenant, je pense que les humanitaires n'ont pas, c'est pas vraiment leur rôle direct de s'impliquer dans la recherche d'une solution. Pour ça, je pense qu'il y a la diplomatie, et en ce moment, il est très encourageant de voir qu'au moins il y a certaines initiatives qui sont en place, qui viennent un peu de différents horizons, et je ne peux que encourager les parties et les belligérants à dialoguer et essayer de trouver une solution qui soit durable.
Parce que pour vous, il est quand même difficile de bien évoluer dans l'assistance humanitaire, parce que sinon, vous risquez même de perdre votre vie. Hein. Il y a certains points où vous ne pouvez pas accéder.
Je dirais qu'il y a du travail parfois qui est remarquable, qui est fait par des opérateurs humanitaires. Je pense notamment, par exemple, à nos amis de la Croix-Rouge congolaise, qui souvent se trouvent, eux, en première ligne, chez eux, dans les lieux les plus compliqués, les plus complexes au niveau du conflit, qui risquent leur vie, des fois, pour porter secours aux victimes. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser les risques énormes que certains opérateurs et notamment, je dirais, tous les partenaires congolais qui travaillent dans la région du Nord Kivu en ce moment, les risques qu'ils prennent sont énormes.
Nous savons qu'à Boutembo, les déplacés fuyant les affrontements dans le territoire de Rutshuru continuent d'affluer dans le secteur de Lubero-Boutembo. Vous êtes également présent de ce côté-là?
Et nous, on a une base à Kirumba, c'est un peu plus au sud, donc c'est un peu dans la région de Kanyabayonga. En ce moment, on essaye de rétablir une présence permanente là-bas. On est en train de dépêcher une équipe qui est en train de descendre l'axe depuis Beni via Boutembo pour rejoindre notre base à Kirumba. Le but, c'est vraiment de s'installer sur la durée. Maintenant, il faut évidemment, avec les récents développements, il faut rétablir d'établir tout un réseau de contacts et puis une sorte de garantie de sécurité pour pouvoir opérer dans les meilleurs délais et de manière la plus satisfaisante pour le peuple congolais.
Oui, nous avons justement notre confrère qui se trouve à Boutembo en ce moment. On va donc le rejoindre. Restez avec nous, hein, une fois de plus, Olivier Martin. Etienne Moindo, vous êtes maintenant avec nous. Alors, nous savons que 300 familles de déplacés ont été recensées ces deux derniers jours par la mission d'aide aux déplacés et la Croix-Rouge, ville de Boutembo. C'est beaucoup, surtout que le front est situé dans le territoire de Rutshuru. Est-ce que vous avez à suivre l'assistance dont bénéficient ces déplacés, Etienne Moindo?
Bon, oui, il faut parler d'assistance jusque-là, pas encore, Nicole, mais disons que la situation des déplacés dans les territoires des Lubero et en ville de Boutembo continue d'inquiéter non seulement les ONG locales, mais aussi les autorités administratives qui sont désemparées face à l'immensité même des besoins. Vous dites 300 ménages de déplacés enregistrés mercredi et jeudi dernier, mais ces gens continuent d'arriver par petits groupes, ils sont fatigués, ils ont marché à pied pendant plusieurs jours. Certains privilégiés, notamment les femmes des militaires, arrivent par camion. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, tous les déplacés atteignent Boutembo dans un état de dénuement total. Ils ont besoin de vivre et de non-vivre. Et à ce sujet, écoutons M. Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Lubero. Il nous parle de la situation des déplacés dans sa juridiction.
Kalonda, dans le territoire de Lubero. Oui, effectivement, nous avons au niveau de Kanyabayonga, il y a des trois cités que je viens d'enregistrer, plus de 5000 familles déplacées et toujours ils continuent à venir parce qu'ils viennent à pied au provenance de Rutshuru. Il n'y a que Médecins Sans Frontières France qui continue à assister les déplacés au niveau de l'hôpital de Kaina, mais au niveau de Kanyabayonga, il n'y a plus de humanité. Ils se sont retirés pour des raisons que j'ignore. Dans ces différentes localités, la population est vraiment dépourvue de tous les moyens. Ils n'ont pas de l'eau, parce qu'au niveau de Kanyabayonga, il faut un ravitaillement de l'eau et aucune assistance jusqu'à présent depuis qu'ils sont arrivés. Ça fait déjà plus de 4 jours. En tout cas, on dirait, j'ai lancé un SOS au niveau des humanitaires parce que la population est presque abandonnée. Et si ils peuvent retourner pour assister à vivre aux besoins vraiment des premières nécessités.
Et parmi toutes les agences qui œuvrent à travers le pays, et notamment dans cette partie de la RDC, il ne reste plus que MSF France, Etienne Moindo. Où sont partis les autres? Parce que là, les besoins de se déplacer, c'est des besoins urgents. Nous avons suivi, on nous parle de l'eau, on nous parle des vivres. Vous avez pu vérifier cette information. Quels sont finalement les besoins immédiats de se déplacer, Etienne Moindo?
Oh oui, vous venez de suivre justement à Missy Kalonda, qui est l'administrateur des territoires de Lubero. Il vous parle d'une seule ONG qui se trouve présentement à Kaina, donc Médecins Sans Frontières. Et il faut dire que les ONG étaient concentrées dans le Grand Nord, notamment dans le territoire de Beni. Et donc, s'il faut parler de besoins immédiats de ces déplacés qui sont actuellement dans les territoires ou dans le secteur de Lubero de Boutembo, bien, au bureau de l'ONG Mission d'aide aux déplacés, une ONG locale chargée du recensement des déplacés, j'ai eu à discuter avec certains déplacés qui venaient justement de se faire enregistrer. Et donc, globalement, ces déplacés viennent des territoires de Rutshuru, notamment de Kikuku, de Kibirizi, de Nyanzane, de Kiwanga, de Tongo, de Rubare, voire même des Sake et des Kiroche, c'est dans les territoires de Masisi. Et ces déplacés qui sont essentiellement des femmes, des enfants et des vieux, ont justement besoin de nourriture, des couvertures, des vêtements et des médicaments. Et jusqu'à présent, ces déplacés ne bénéficient pas encore d'une quelconque prise en charge, par exemple médicale, surtout ici à Boutembo. Et certains parmi eux souffrent de malaria. N'oublions pas qu'ils viennent de retour à une zone considérée comme endémique sur le plan de la malaria.
Mais les autorités administratives sont tout de même présentes à Boutembo, dans le secteur de Lubero-Boutembo. Qu'est-ce qu'elles font? Elles n'assistent pas à se déplacer?
Si, des camps par exemple, ou des sites anciennement occupés par les déplacés de l'Ituri, à l'occurrence les sites de Vusessa et de Matoto, à commune Kimeni, cet avis de Boutemo a été ciblé par les autorités municipales en vue d'accueillir les déplacés de Rutshuru. Mais ces sites méritent d'être désaffectés, Nicole. Donc il faut revoir le fonctionnement de l'eau, par exemple, construire de nouvelles latrines, prévoir un groupe électrogène, construire une infirmerie et pour soigner les déplacés malades. Et si les conflits perdurent, bien il faut songer par exemple à construire des écoles pour les enfants les déplacés. Et tout cela demande des moyens à la fois financiers et humains. Autre chose, il faut savoir également qu'une cinquantaine de ménages de déplacés fuyant les derniers affrontements entre les FARDC et les FRPI dans les touristes sont dans des familles d'accueil ici à Boutembo. Et donc beaucoup parmi eux aussi, parmi ces ménages, demandent d'être encadrés dans un camp approprié.
On reçoit plusieurs réactions au 081-070-2050. Il y a un auditeur, Étienne, qui nous dit « Je ne peux rien offrir à la population de Kivu. Ma prière suffit pour les soutenir. » Ça, c'est Melga Arafat de Bounia qui nous le dit. Alors, est-ce que vous avez un complément d'information à ajouter avant qu'on se quitte?
Oui, Nicole, disons que la situation des déplacés est dramatique. J'ai vu certains d'entre eux. Ils souhaitent que les hostilités cessent afin qu'ils puissent retourner dans leur village d'origine. Ils demandent et déclarent, par exemple, avoir tout perdu. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu leurs animaux domestiques. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Leur avenir, disent-ils, est certain. Et pour beaucoup d'entre eux, cette guerre n'a pas de sens. Les politiciens feraient mieux de se parler et la population, parce que la population finalement est une victime innocente de leur de la mésentente entre les politiciens, c'est ce qu'ils disent.
Merci beaucoup Étienne, on va s'arrêter là. On aura certainement à vous retrouver prochainement pour d'autres précisions sur cette question parlant de la situation humanitaire au Nord Kivu. Nous vous remercions d'avoir été les nôtres et à la prochaine.
À la prochaine Nicole.
Au Capi, active pour la paix. Olivier Martin, nous vous retrouvons pour poursuivre cet entretien en tant que chef adjoint de la délégation du CICR en RDC. Vous avez suivi l'échange que nous venons d'avoir avec Étienne Mundo qui est basé en ce moment à Butembo. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce qu'il vient de dire? Allô, Olivier Martin? Voilà, on a été coupé avec notre invité, on va le relancer parce qu'il est toujours avec nous. Les problèmes techniques ne manquent pas. Nous avons plusieurs réactions, nous vous l'avons dit toujours au 081-070-2050 qui nous arrive. On va une fois de plus lire quelques réactions, notamment la réaction de Sylvain Kiota qui dit « Quelles sont les dispositions prises par les agences humanitaires en vue d'atteindre tous les déplacés étant donné que tous n'ont pas suivi la même direction ?» La question, elle est pertinente. On va essayer de récupérer notre invité afin de lui poser directement la question. Nous avons également l'intervention de M. Julien Vitsambali en tant que préfet de Ngélé en cité d'Oïcha qui dit « La cité d'Oïcha n'est pas également épargnée par ce problème humanitaire. Mais curieusement, quelques autochtones se font aussi déplacer. » Que les humanitaires fassent rationnellement leur travail. Ça, c'est la précision que donne Julien Vissambalé en tant que préfet de Ngélé en cité d'Oïcha. On reviendra là-dessus dans un instant, en tant que préfet de Ngélé. Mais d'abord, donnons la parole à notre invité, Olivier Martin, chef adjoint de la délégation du CICR en RDC. Vous êtes à nouveau avec nous. Vous avez suivi donc les réactions de quelques auditeurs. Est-ce que vous avez des préoccupations, vous avez des recommandations à faire à ce sujet? On a décidément des petits problèmes avec lui. On rappelle à tous ceux qui souhaitent intervenir qui sont les bienvenus au 081-890-63-94 s'ils souhaitent faire des témoignages. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir à travers des SMS au 081 07